Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quel type de punition infligée aux élèves? On en parle dans cette émission avec Paul Mboula, éducateur à la vie. Paul Mboula, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service qui s'intéresse aux punitions. Vous voulez participer à cette émission, fidèles auditeurs, eh bien écrivez-nous à service@radioocapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission. Au Capi Service, Paul Badianyam à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Bienvenue encore une fois dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui des punitions. Quelles punitions infligées à un élève qui a commis une faute? Vous savez, plusieurs enseignants et préfets des disciplines recourent au coup de fouet pour corriger les écoliers dérangeurs. Même les élèves qui arrivent en retard dans certains établissements scolaires sont victimes des châtiments corporels. Et pourtant, ces types de punitions ont des incidences négatives dans les processus de formation des élèves, d'après les experts en sciences de l'éducation. Alors, comment remettre sur le bon chemin un élève qui a enfreint une instruction à l'école? Quel type de punition lui infliger? Nous savons que dernièrement, un élève dans la province de la Tchopo, un élève est décédé de la sixième année primaire, est décédé après avoir reçu des coups ayant entraîné des blessures, des coups et blessures ayant entraîné la mort à Kisangani de cet élève âgé de 12 ans. Eh bien, nous avons en ligne Paul Mboula, éducateur à la vie. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, les amis.
Bien. Paul Mboula, d'abord, c'est quoi une punition?
Une punition, c'est une sanction négative faite à un comportement. Aujourd'hui, il est temps de le dire que tout ce que nous sommes en train de dénoncer a fait que c'est un mode qui est devenu courant de punir les enfants par des sévices corporels.
Bien.
Et lorsque nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui ces sanctions physiques et même morales, nous voulons, étant dans cette radio de la paix, montrer que beaucoup de punitions faites dans ce sens sont à l'origine de la violence aujourd'hui très remarquable dans notre communauté.
Bien. Et quel est le but? Vous avez dit le but d'une punition.
Le but d'une punition, c'est on croit que c'est corriger, c'est amener la personne à changer de comportement, à adopter un comportement souhaité, voulu par l'autorité qui sanctionne. Ça peut être un parent, ça peut être l'enseignant à l'école ou une autre à l'école ou même dans la communauté.
Voilà. Et quels sont les types de punitions aujourd'hui qu'on retrouve dans nos différentes écoles?
Et bien sûr, moi je vous amène sur tout ce terrain-là de partant de la famille jusqu'à l'école, parce que les uns et les autres savent que c'est la norme, tout le monde fait comme ça, nos prédécesseurs ont fait ça, et nous croyons que c'est bien faire, fouetter l'enfant, le mettre sous les lits en pleine journée, lui priver la nourriture, l'injurier parfois, et parfois on le fait dormir, comme j'ai vu dans une école ici, un enfant qu'on fait traîner dans la boue, même en uniforme chemise blanche, mais vous voyez que l'enfant, on le fait agenouiller en le faisant regarder le soleil.
Le soleil, oui.
Vous comprenez qu'il y a plusieurs formes de sévices qu'on fait subir aux enfants qui touchent le corps ou qui touchent leur réputation.
Ou soit l'enfant doit s'agenouiller sur des bouchons. Là.
Il s'agenouille sur le bouchon ou on les fait agenouiller de façon inclinée, tête en bas. Il y en a plusieurs formes. Chacun imagine ce qui peut forcer l'enfant à adopter le comportement souhaité. Mais au fond, c'est vraiment négatif.
Bien, il y a également le fouet, parce que la plupart des préfets des disciplines dans les écoles, par exemple, ils ont l'air menaçants, il suffit de commettre une faute et vous allez recevoir une pluie de fouets.
Oui, suivant le nombre d'années que vous avez ou le nombre de fois que vous avez failli, on vous inflige une de ces formes-là. Donc ça peut partir du fouet. Mais ça va plus loin. Il y en a même qui imposent aux enfants d'aller faire la pêche ou d'aller faire le champ ou d'aller puiser de l'eau là où les conditions sont difficiles. Il y a vraiment une panoplie de sanctions physiques qui sont imposées à l'enfant et qui l'empêchent au fond de trop réfléchir ou même d'adhérer au lieu d'avoir les résultats escomptés. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont quitté les ménages, qui ont abandonné les ménages ou même qui ont quitté l'école parce que l'enseignant, le chargé de discipline, le préfet ou quelqu'un d'autre de l'autorité l'a infligé une punition qui n'était pas adaptée ni à l'âge ni à la dignité humaine.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sanctions, des punitions qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises?
Il y a des sanctions qui sont éducatives et il y a des sanctions qui ne le sont pas. Parce qu'au fond, le souci de l'éducation, c'est d'amener la personne à intérioriser un certain nombre de valeurs qui lui permet de débrouiller dans toutes les circonstances et situations de la vie. Malheureusement, il arrive de fois que l'on sanctionne un comportement sans tenir compte de l'âge de la personne, de sa vulnérabilité, de son ignorance, parce qu'on croit qu'il a déjà atteint la maturité voulue. L'enfant, c'est une personne qui est en construction, il est normal qu'il ait droit à l'erreur. Alors, à ce moment-là, si nous ne devons pas reconnaître son droit à l'erreur, nous croyons agir sur un enfant comme on agirait sur un adulte. C'est vrai qu'il y a des comportements des enfants difficiles, mais il y a toujours moyen de les identifier et même de les isoler pour les amener eux aussi à avoir un comportement souhaité par la communauté. Toutefois, dire qu'il y a des comportements, des sanctions qui seraient bonne ou mauvaise, une bonne serait celle qui contribue à l'objectif de l'éducation, c'est-à-dire former la conscience de la personne, la rendre responsable.
Alors, vous avez suivi certainement, Paul Mboula, ce qui s'est passé dernièrement dans la province de la Tchopo, un élève de la sixième année qui est décédé après avoir été fouetté par son enseignant. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce type de punition, le fouet?
Oui, je dis le mal est très profond. Il faut rechercher la cause du comportement chez l'enseignant. Est-ce qu'il n'a pas subi la même punition pour l'appliquer aujourd'hui chez l'enfant. Et si nous devons continuer dans les cycles, si l'enfant n'était pas mort et que sévit de cette manière-là, il ne pourrait pas lui-même devenir vengeur et violent. C'est la question qu'on se serait posée. Ce qui veut dire que la formation de l'enseignant doit précéder finalement son action lorsque il va intervenir auprès des enfants. Une des qualités d'un bon enseignant, c'est d'être capable de se maîtriser vis-à-vis du comportement négatif de l'enfant. Des deux, de choisir une punition qui finalement aiderait l'enfant à prendre conscience d'une mauvaise conduite, mais en même temps prendre conscience du désir de l'enseignant de l'amener finalement à devenir un bon citoyen un jour, un bon enfant. Mais alors, si on recourt à la violence, on n'a pas vraiment aidé l'enfant. Plutôt, on l'a blessé, et si la blessure est intérieure, c'est qu'on a créé encore un autre problème dans la communauté.
Bien, nous allons accueillir deux auditeurs, Jonathan de Kananga et Japhet de Goma. Jonathan, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux punitions à l'école?
Bon, ce n'est pas normal vraiment de fouetter un élève ou sauter l'écolier, ce n'est pas normal. Même le ministère de l'enseignement a dit non, non, on ne peut pas fouetter les enseignants ou sauter les écoliers, on ne peut pas les fouetter. On dirait peut-être que l'enfant peut être un raisonnant. Ce n'est pas normal de les fouetter. Bien, il faut d'abord contacter les parents, discuter avec les parents. À travers les parents, vous aurez des bonnes choses. Et puis, si l'enfant n'est pas un raisonnant, sur le travail de l'enseignant, l'enseignant peut faire son travail, parce qu'il peut appeler un cadreur.
On va accueillir Japhet de Goma. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux punitions des élèves à l'école?
Et par rapport à ça, vous savez, depuis les anciens temps, nos parents ont étudié, on les fouettait à l'école. Et aujourd'hui, comme nos enfants sont aussi en train d'étudier, ils doivent tous passer par la voie là où nos parents aussi étaient passés. Vous savez, aujourd'hui, les enfants sont en train de devenir de plus en plus mauvais parce qu'ils ne sont plus fouettés à l'école. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de frais à l'école. On va me donner une autre punition qui ne sera pas, qui va même pas me toucher. Hein? Vous comprenez tout ça?
Donc, Japhet, vous soutenez l'idée de continuer à fouetter les élèves pour les amener à améliorer leur conduite?
Non, pas forcément, mais il y a des cas où les enfants doivent être fouettés. Il y a d'autres cas où on peut leur donner une simple punition, on peut dire les faire balayer la cour, les faire travailler.
Dans quel cas, alors, faut-il les fouetter?
Là, c'est un peu compliqué, mais vous savez, par exemple, un enfant qui vient tous les jours en retard à l'école, on lui dit de venir un peu à temps. Mais lorsqu'il le fait d'une manière répétitive, il faut le fouetter pour qu'à l'autre occasion, il puisse le faire lorsque on lui a demandé de faire.
Bien, Japhet nous dit qu'un enfant qui vient tout le temps en retard à l'école, et il faut le fouetter, comme ça, il ne viendra plus en retard. Paul Mboula, qu'est-ce que vous pouvez dire à Japhet par rapport à ce qu'il vient de dire?
J'ai déjà dit à Japhet, comme Japhet, je crois son nom, qu'il m'excuse pour l'avoir écorché. Il n'est pas bon de fouetter un enfant. Prenons l'exemple qu'il vient de donner. Un enfant qui vient régulièrement en retard doit normalement interpeller l'enseignant et finalement les autorités de l'école. Se rassurer pourquoi l'enfant ne vient pas en retard. Peut-être que ça ne dépend pas que de lui. Je prends un exemple d'un enfant qui vit dans une famille d'accueil, qui doit d'abord faire le travail domestique avant d'aller à l'école. Rassurez-vous qu'il ne sera que constamment en retard. Si vous le punissez, c'est une façon de le punir doublement parce qu'à la maison où il est hébergé, il est déjà puni. On l'a accueilli comme un esclave et vous voulez encore le sanctionner au niveau de l'école. Comme il a proposé, n'est-ce pas le moment d'interroger un peu l'enfant, de voir dans quelles conditions il vit et de négocier avec la famille pour qu'on puisse savoir les libérer à temps. Autrement, notre pays, vous le connaissez, c'est un pays assez large et les écoles sont très éparpillées, parfois très éloignées des lieux d'habitation. Parfois jusqu'à 5 km. Un enfant de l'école primaire qui doit franchir une telle distance n'a pas toujours l'énergie suffisante pour arriver à l'heure. Allez-y, comprendre que vous allez flageller encore cet enfant parce qu'il vient constamment en retard. Non. La punition doit répondre normalement aux besoins d'améliorer la conduite de l'enfant. Mais s'il y a des facteurs qui sont en train de justifier son comportement, il faut agir sur ces facteurs-là pour que l'enfant puisse finalement vous rendre le comportement que vous attendez. Et alors, un enfant qui, par exemple, n'habite pas très loin de l'école, mais qui arrive souvent en retard, vous avez aussi besoin de savoir pourquoi il arrive en retard. Les motivations peuvent être multiples et à chaque cas, il faut une réponse adéquate. Sinon, vous risquez d'utiliser le fouet pour révéler davantage un enfant qui est déjà dans les très mauvaises conditions.
Bien. Quel type de punition à infliger aux élèves à l'école? On en parle avec Paul Mboula, éducateur à la vie. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Okapi. Quel type de punition à infliger aux élèves? Paul Mboula, nous savons dans certaines écoles, les enseignants utilisent par exemple la règle pour taper sur le bout de doigt des élèves dérangeurs en classe. Est-ce une bonne punition d'après vous? Est-ce une bonne punition ou pas?
La loi scolaire interdit déjà toute punition corporelle. Et ce qui nous reste, c'est d'identifier ces écoles, ces milieux où on utilise encore le fouet ou les punitions qui vont dans le sens de sévir l'organisme de l'enfant. Il faut qu'on puisse les identifier et éradiquer cette pratique. Si nous voulons d'abord une société où il y a moins de violence et il y a des citoyens qui usent de leur conscience pour mener des actions ou poser certains actes. Donc, il faudra qu'on puisse repérer ces enseignants-là parce que la loi l'a déjà interdit. Vous savez que la loi suit toujours le besoin de la communauté. Nous étions dans le besoin de réaliser que le fouet ne nous a pas tous aidés depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'on a recouru à cela comme méthode, mais ça a mené l'humanité là où nous en sommes. Et pourtant, il y a moyen de commencer tôt en famille à faire raisonner l'enfant et à utiliser le moins possible la violence pour le corriger. Donc, je ne suis pas content qu'on puisse utiliser telle ou telle manière de sévir l'enfant physiquement si on veut l'aider à devenir un citoyen consciencieux, un citoyen même dans les prisons aujourd'hui, on n'utilise pas le fouet, s'il vous plaît.
Bien. Allô? Alors, au niveau de la famille, par exemple, un enfant dérangeur, têtu ou indiscipliné, quel type de punition l'infliger pour le redresser?
Même certaines privations sont parfois pas très recommandées. Vous avez un enfant, vous devez le connaître et l'aimer. Et si vous aimez votre enfant, vous n'allez pas le gifler, le frapper, chercher des moyens coercitifs qui dépassent son âge et sa capacité d'enfant. Il faudra donc voir qu'est-ce que lui devait faire à ce moment-là par rapport à ce que vous lui reprochez comme comportement. Soyons concrets. Nous avons un enfant qui salit habituellement ses habits. Vous voulez lui apprendre la propreté. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de bien l'habiller et le promener ou même l'amener vers quelqu'un qui le félicite parce qu'il s'est bien habillé que de le frapper constamment parce qu'il a sali son habit? Sachez que c'est un enfant. L'enfant a besoin de jeu. Et c'est sa façon d'apprendre et même de vivre. Vous, vous l'empêchez de jouer parce que vous voulez le voir bien habillé.
Oui.
Votre intention n'est pas mauvaise, mais vous êtes en train aussi d'enfreindre un droit fondamental de l'enfant, le droit aux loisirs, le droit au jeu. Et si vous ne respectez pas ce droit, vous voulez lui rendre la vie dure parce qu'il veut jouer, mais alors c'est vous que nous devons punir parce que vous ne connaissez pas l'enfant et vous ne connaissez pas les besoins de l'enfant et vous ne savez pas ce qu'il faut faire à ce moment-là.
Bien. Paul Mboula, on va accueillir des auditeurs et je reviens à vous tout à l'heure. Fariel, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à votre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au type de punition à infliger aux élèves?
Oui, monsieur Jody, moi je dirais ceci. Tout part de la manière dont ces enseignants-là ont été formés dans leur parcours scolaire. Parce qu'il y a ceux-là qui ont été victimes de coups et blessures. Alors, ils ont fait l'effort d'être engagés aussi comme les enseignants. C'est pourquoi ils aiment appliquer ce genre de punition avec comme mode de revanche aux enfants. C'est pourquoi je vais demander à votre invité de pouvoir faire des propositions au gouvernement à telle fin que l'État puisse modifier les règlements intérieurs pour aider ces enfants-là à bien évoluer dans leur parcours. Voilà au moins ma préoccupation.
Merci. Hilaire, vous êtes à Kananga aussi. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Kachama.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux punitions à l'école?
Oui, par rapport aux punitions à l'école, vraiment, je décourage cette pratique-là. Moi, personnellement, en tant qu'enseignant, je déconseille souvent dans notre école de punir les enfants. Lorsque vous donnez des coups aux élèves, vous pouvez blesser un élève. Alors, qui sera responsable? Il y a des parents qui ne souhaitent pas à ce que leurs fils trouvent des problèmes pareils. Selon moi, je crois qu'il est mieux de pouvoir, si l'enfant est venu en retard, l'enfant arrête la première période de cours. La deuxième période, on fait entrer l'enfant. Soit on prend le cahier de communication de l'élève, on insère donc les peines retenues à sa charge pour que ses parents puissent quand même venir plaider à l'école ou qu'il paye l'amende là. Alors, donner des cours, ce n'est pas bien.
Oui, alors, Hilaire, dites-nous, vous êtes enseignant, alors quel genre de punition vous donnez par exemple à vos élèves?
Oui, concernant les punitions, si l'enfant est venu en retard ou si l'enfant dérange trop, on peut donner donc l'amende d'acheter, par exemple, une boîte de craie. C'est ça au moins l'amende que nous sommes en train de donner aux élèves au lieu de punir. Parce que il y a donc cette année même un élève du complexe scolaire Boulela dans la commune de Ndesha a été tapé par un enseignant. Et l'enfant était à demi-mort. Alors, il y avait eu des problèmes. Les préfets avaient fouillé. Donc, c'est par rapport à ce que nous avons déjà dit comme effet néfaste que nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses.
Oui, il y a même eu un cas de mort d'un élève de 12 ans à Kisangani après avoir été fouetté par son enseignant.
Oui, même ici à Kananga, il y a eu encore ce cas-là. Un élève, dans le quartier du Kouba, a été frappé par un enseignant et l'enfant aurait donc succombé de ce coup-là. Donc, c'est une pratique extrêmement illégale que nous ne pouvons pas quand même donner aux enfants. Il faut quand même apprendre aux enfants certaines disciplines, pas donner des coups aux élèves.
Et que pensez-vous de les mettre à genoux sous le soleil ou dans la cour de l'école?
Bon, mettre l'enfant à genoux dans la cour de l'école, c'est affaiblir encore sa mémoire. Donc, il peut se faire qu'il y a le soleil qui brille donc beaucoup plus. D'où il faut garder l'enfant là où il y a quand même de l'ombre au lieu de le mettre sous soleil. Parce qu'avec la chaleur, l'enfant n'aura pas aussi quand même la mémoire de s'exprimer convenablement. Et il sera étouffé, alors ça ne doit pas lui permettre de bien assimiler les matières.
Bien, merci Hilaire depuis Kananga. Paul Mboula, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Toutes les interventions sont positives et nous aident à réaliser que la collaboration des parents est indispensable. Ça, c'est évident. Mais il faut s'assurer que l'enfant a ce qu'on peut vraiment appeler parent responsable. Parce que j'ai vu parfois, déjà aux réunions des parents, des gens qui envoient, qui délèguent parfois leur pouvoir à un cousin, à un petit frère, à quelqu'un qui ne peut pas appréhender à juste valeur les recommandations de l'école et discuter avec l'école. Ça, c'est une chose. Les deux, avec la gratuité, nous avons vu que beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu étudier pendant plusieurs années sont rentrés à l'école avec des habitudes que nous devons normalement corriger. Et éventuellement, des enfants qui sont déjà assez ancrés dans l'indiscipline. Si vous usez avec des enfants pareils de méthodes de punition corporelle, vous échouerez évidemment. Et si vous travaillez avec des enfants qui n'ont pas des familles sûres, vous devez également être assez imaginatif. Le gouvernement a déjà fait son travail. Il a déjà donné des recommandations pour que l'on ne puisse plus appliquer des punitions corporelles. Mais ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'inventivité de l'enseignant, l'inventivité de l'école pour amener l'enfant à adopter le bon comportement. Ici, il s'agit de réaliser que, par exemple, la formule de demander une boîte de craie à un enfant. Mmh. Vous n'avez pas puni l'enfant, vous avez puni plutôt le parent. Et il ne faut pas non plus utiliser ça comme bonne formule. La formule, c'est de montrer à l'enfant que celui qui se comporte bien est finalement accepté et encouragé, alors que celui qui se comporte mal est découragé. Pour décourager certains comportements, ou pour, il faut encourager par exemple les élèves qui viennent régulièrement en retard. Il y a beaucoup d'écoles ici à Kinshasa que je connais où on sanctionne positivement les bonnes actions.
Les élèves qui viennent régulièrement à temps, vous voulez dire?
Oui, il y a des enfants qui viennent régulièrement à temps, à qui on donne une bonne cote, des cotes de bonification pour les maintenir dans le comportement, alors que les autres qui affichent de mauvais comportements, ceux-là réalisent que l'ami a été encouragé. Moi aussi, je peux aujourd'hui finalement me comporter comme l'autre pour que je sois sanctionné positivement. J'ai vu dans une école, je ne cite pas, je ne fais pas la publicité, mais il y a des écoles où, quand on a ramassé de l'argent dans la cour de l'école, on va remettre à l'école et l'école recherche la personne qui a perdu son argent ou qui a perdu son objet de valeur. Et on donne des points de bonification à des enfants comme ça dans la conduite. On a cité ici le cahier de communication, mais parfois il n'est pas connu des parents, il n'est même pas exploité par l'école. On en fait seulement un objet de marchandage et puis après tout, on ne sait pas l'utiliser à bon escient.
Paul Moulin, prenons par exemple un élève qui dérange à l'école pendant dans la classe. L'enseignant le met dehors et lui demande de balayer la cour de l'école. Est-ce une bonne punition ou pas?
C'est pas une bonne punition parce que s'il attrape une fièvre ou une maladie liée à... Si c'est un asthmatique, ça peut dégénérer et finalement amener une situation regrettable à l'école. Balayer, ce n'est pas aider l'enfant. Vous avez vu qu'il y a eu des moments où on a demandé aux enfants de lire un roman, de le résumer. C'est une punition qui est formative. C'est vrai que l'enfant doit prendre du temps pour le lire et bien résumer, mais on l'aide déjà à lire. Donc il y a des punitions comme ça qui amènent l'enfant à se former davantage par rapport à vu son comportement. Ça peut être un élève qui est faible dans une matière donnée, on lui donne davantage des exercices pour que pendant qu'il est en train de les faire ou qu'il est en train de demander de l'aide de quelqu'un, il apprend. Il faudra que toute punition que va infliger à l'enfant l'amène à apprendre plus. Voilà l'essentiel qu'il faut retenir sur le type de punition que l'on doit donner à l'école.
Bien, quel type de punition? Oui, on ne doit pas se venger. Quel type de punition?
On ne doit pas se venger.
Donc, cela veut dire qu'il y a certains enseignants en colère, peut-être qu'il a des problèmes chez lui à la maison, ou par rapport au salaire qui ne vient toujours pas, bon, il va déverser cette colère sur les enfants.
Oui, et là, sa place n'est pas à l'école. Quelqu'un qui n'a pas de maîtrise et qui ne fait pas la distinction entre sa vie de famille et sa vie au travail ou à l'école, c'est quelqu'un qui n'a pas de maturité et sa place n'est pas à l'école. Surtout que l'école a vocation de former, d'informer et de former. De former pour les familles, de former l'individu, mais de former aussi pour le pays. Alors, si on doit prendre des gens qui s'énervent à tout moment dans le milieu de travail, dans, à l'école, et surtout qui se rabattent sur les enfants pour obtenir ce que le gouvernement n'a pas donné ou les familles n'ont pas donné ou l'école n'a pas donné, rassurez-vous que c'est pas un bon enseignant. Donc, il doit y avoir au niveau de l'école une cotation qui ne soit pas sentimentaliste, comme on le voit maintenant, mais qui reconnaît de bons enseignants qui sont inventifs. Et d'ailleurs, un bon enseignant est aimé par ses élèves. Et les élèves adoptent facilement les recommandations de l'enseignant parce qu'ils savent que notre enseignant nous aime et il nous aide à devenir meilleur. À ce moment-là, tout ce que vous allez demander à l'enfant de faire et qu'il amène à mieux faire, je crois que c'est une bonne chose. Et je dirais, par exemple, si vous avez demandé à un enfant de sortir, cela ne suffit pas. Il faudrait que celui qui récupère l'enfant qui dérange en classe soit capable de lui donner un autre travail. Aujourd'hui, à l'Internet, à l'école, l'enfant peut aimer aller déranger la classe pour aller, par exemple, voir l'Internet. OK, mais qu'est-ce qu'il ira voir là-bas? Si le chargé de discipline peut lui demander une tâche qui n'est pas dans l'ordre de ce qu'il aime, mais de ce qui le rend formatif, ça peut déjà être quelque chose. Donc, on peut partir de la classe pour la salle d'informatique, mais là, on va travailler, ou on peut partir de la classe pour les laboratoires, et on va travailler, on continue à apprendre. Bien. Donc, il y a moyen d'inventer au niveau de l'école de palliatifs qui aiderait l'enfant à apprendre autre chose pendant qu'il rate un cours.
Bien, on va accueillir Bernard de Kananga. Bonjour.
Bonjour, cher journaliste, c'est Bernard Malumba au Kassai Central.
Bernard, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux punitions à l'école?
Ok, les enseignants doivent infliger aux élèves les punitions légères, comme par exemple, l'enfant qui est venu en retard doit obligatoirement perdre les cours de la journée et payer une amende de boîte de crêpes. Nous ne sommes pas encore dans le pouvoir dictatorial où pour comprendre, il faut recourir au fouet. Ce n'est pas bien. Nous sommes en train de déplorer ces actes horribles que commettent les enseignants. Car il n'est pas dit que pour écouter ou bien pour instruire un enfant, il faut faire ça, on fait ça. Les enseignants veulent nous ramener dans le mauvais système de Mobutu qui était de la latine tout Mouloulou. Maintenant, c'est une question à poser. Qu'est-il la loi? Si peut-être un enseignant aurait tué un enfant par un fouet, comme solution, le gouvernement doit imposer le secteur d'enseignement avec un bon règlement d'ordre afin que nos enfants étudient en paix et non qu'ils soient considérés comme des bêtes. Parce que une bête, les bêtes ne comprennent pas, mais un enfant qui est créé à l'image de Dieu, à l'intelligence et la sagesse, il doit comprendre facilement. Voilà au moins ma préoccupation.
Merci, merci Bernard de Kananga. Nous avons en ligne depuis Mbandaka un autre auditeur, Somo. Bonjour. Somo, vous êtes en Mbandaka, bonjour. Somo Loba, on vous écoute difficilement. Je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que la liaison va s'améliorer. Ouais. C'est fait?
Oui, ça va un peu.
Bien, Somo Loba, vous êtes...
Pas si je sors.
Oui, ça va mieux maintenant. Vous êtes en Mbandaka. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux punitions à l'école?
Ouais, par rapport à la punition, j'ai évoqué quelques articles prévus par l'UNICEF. Que prévoit l'UNICEF que les punitions est normale, sauf qu'on peut punir l'élève par rapport à la situation que l'enfant a commise ou soit par rapport à la gravité de la situation que l'élève a commise. Prenons par exemple, lorsque vous voulez punir un élève, il ne faut pas lui tenir compte seulement du fait qu'il a fait, mais il faut toujours...
Désolé, la communication pose problème. Paul Mboula, nous poursuivons. Donc, il nous disait que pour punir un élève, il faut tenir compte de certains paramètres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, il faut tenir compte de certains paramètres, dont l'âge, mais aussi les niveaux de l'enfant, la gravité du forfait. Mais dans les interventions, je voudrais que l'on réalise que lorsqu'un enfant a perdu le cours, il arrive en retard et que pour ne pas perturber l'évolution de la leçon, on le met un peu à l'écart. Mais on doit trouver un moyen de compenser parce que sinon, cet enfant va évoluer avec un creux parce qu'il n'a pas assisté à ce cours-là. Donc, il a un autre devoir, c'est peut lui être donné et ça lui permettra à un moment donné de se former. Et ce devoir-là qui sera un devoir à lui seul sera une façon de le punir, mais une façon qui le forme. Donc, il faudra que toutes les punitions concourent à l'amélioration et de la conduite, mais aussi et du niveau de l'enfant. Donc, mettre l'enfant hors du cours, sans trouver autre chose, on ne l'a pas encore aidé à s'améliorer. Comme on a dit pour la boîte de craie, il faudra exclure des punitions de ce genre-là parce qu'on n'a pas suffisamment aidé l'enfant. Nous voulons qu'à un moment donné, on dise, même en ce qui concerne l'UNICEF, l'UNICEF ne dit pas qu'il faut supprimer la sanction, mais ce que l'UNICEF dit, comme le gouvernement congolais dit, que la punition corporelle est prohibée. À beaucoup d'endroits, peut-être que le règlement intérieur n'est pas arrivé pour faute des infrastructures, ça c'est tout à fait normal, mais la règle est que nous devons arriver à persuader tout le monde que la punition corporelle n'aide ni l'individu qui est l'enfant, ni la communauté qui espère sur cet enfant un certain développement, une contribution au développement du pays. Donc il faudra qu'à un moment donné, que toute punition amène à la non-violence et nous amène finalement à la conscientisation de la personne.
Bien. Quel type de punition à infliger aux élèves? On en parle dans Okapi Service aujourd'hui avec Paul Mboula, éducateur à la vie. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Okapi. Christian nous appelle de Kiananga. Bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux punitions à l'école?
Par rapport aux punitions à l'école, j'interviens pour dire, pour être crédible à l'enseignement, punition, les enseignants doivent traiter les élèves de manière équitable, interdire des choses qui pourraient leur rapprocher les idées. Avec quelques types de punitions, infligeant aux élèves, nous arrivons à quelques sanctions. Parmi les sanctions, nous avons l'avertissement. Avant de punir l'élève, l'élève a commis des fautes. Vous allez d'abord avertir à l'enfant, lui dire, voilà, oui, ce que vous avez fait n'est pas bon. Après l'avertissement, vous pouvez aussi procéder par le blâme. Vous causez avec l'élève, vous lui dites, tenez les gestes que nous condamnons ici à l'école, il y a une erreur de libérangement, vous l'expliquez après. Il y a une exclusion temporaire. Dès que vous renvoyez l'enfant pour 2 ou 3 jours de l'école, dès qu'il reste à la maison, l'enfant commence à penser de soi-même et se diriger pour bien se comporter.
Bien, merci Christian de Kananga. Pierrot est en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bien, nous
je
parlons.
Je m'appelle Pierrot Mpanya, je suis à Lubumbashi.
Pierrot, quel type de punition infligée aux élèves? Quelle est votre préoccupation?
Merci, Jody. Si d'abord Les parents sont de premiers éducateurs. On nous a toujours dit que l'école vient en deuxième position avant des églises et autres. Mais l'éducation, donc en pédagogie, les pédagogues nous disent aussi que dresser n'est pas éduquer. Si nous allons avec les fouets, bien sûr, nous pouvons récupérer un enfant qui est déraillé par le fouet, mais à l'école, est-ce que cela est tolérable? Parce que j'ai un témoignage d'un enfant. Moi, je suis dans le domaine médical. J'ai un enfant du quartier qui avait été fouetté parce que pourquoi? Parce qu'il dérangeait à l'école. Lorsqu'il dérangeait, il partait à l'école toujours en retard. Et chaque fois, le professeur lui infligeait de punitions, c'est seulement 5 fouets dans sa pompe de main. Alors, après des mois comme ça, cet enfant a développé une douleur. Cette douleur-là, l'enfant, le parent faisait d'abord une négligence, il disait que ce sont des caprices des enfants, il n'était pas plus intéressé sur ce que l'enfant présentait. Mais après quelques temps, cette douleur-là devenait vive et intense. Alors, les parents ont compris que non, il faut d'abord amener l'enfant à l'hôpital. Quand on part à l'hôpital, on trouve qu'il y a eu des déplacements et une double fracture comme ça. Et cet enfant-là, après le traitement, c'est sa main qui est restée avec un handicap où il était incapable d'écrire, même d'utiliser cette main-là. Alors, cette question qui m'est arrivée, c'est quoi? Ce genre de choses, si ça arrive, qui peut prendre en charge? Est-ce l'école ou l'enseignant qui fait ce genre de bêtises-là? Ça, c'est une question qui m'est arrivée lorsque j'ai vu directement votre sujet que nous sommes en train de poser des questions présentement là. Alors, j'aimerais demander encore pour savoir, ici à Lubumbashi, beaucoup des écoles sont privées. Or, dans les écoles privées, on est là seulement pour avoir des enfants, pour avoir des élèves. Alors, cette mesure-là n'est pas appliquée. Or, si les écoles catholiques ont un emplaire, ces écoles catholiques-là, c'est parce que il y avait une discipline quelconque. Et cette discipline-là, nous avons grandi par ce genre de fouet, et nos parents applaudissez pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'états cadres qui ont dit aussi ça.
Aujourd'hui,
oui.
Vous voulez dire que dans les écoles catholiques, il y a la discipline parce que on recourt au fouet?
Non, j'ai dit quand nous on était encore à l'école primaire, je dis bien parce que j'ai aussi fait mes premiers pas dans une école catholique, Namboutile à Kabindala. C'est là que j'ai fait mon école primaire. On avait une enseignante qui s'appelait Maman Kagère. Cette enseignante-là pouvait nous faire fuir peut-être avec seulement son fouet, même s'il ne nous frappait pas. Donc, lorsque nous on voyait seulement ce fouet-là, on avait peur et on ne pouvait pas venir en retard, on ne pouvait pas déranger. Alors, aujourd'hui à Lubumbashi, on trouve que dans ce genre d'écoles privées, on prive les enfants de punition et de rigueur. Aujourd'hui, les enfants sont en train de dérailler. Il y a du n'importe quoi dans des écoles. Quels sont aussi des inconvénients lorsqu'on prive ce genre de discipline dans une école? C'est ça la deuxième question que je voulais demander. Et je vous remercie.
Merci bien, Piro de Pania de Lubumbashi. Quel type de punition a infligé aux élèves? Jean-Marcel, vous êtes aussi à Lubumbashi. Bonjour.
Monsieur Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jean-Marcel?
Oui, selon les analyses, d'abord, auparavant, on utilisait beaucoup de fouets. Et j'ai fait l'analyse. J'ai remarqué que les élèves de l'ancien temps étaient des élèves plus intelligents et plus disciplinés parce qu'on utilisait les fouets. Moi, j'aimerais qu'on applique encore cette méthode. Parce que depuis qu'on avait refusé, qu'on avait interdit aux enseignants de fouetter les élèves sont devenus très orgueilleux, très indisciplinés parce que on n'applique pas le problème de jouer aux écoles, surtout aux écoles privées. Vraiment, c'était catastrophique. Si on jouait seulement l'élève, son parent jouait, peut-être il part même traduire en justice l'enseignant parce qu'on a fauté son enfant. Et cela, c'est odieux les enfants. Les enfants sont empêchés par leurs parents. J'aimerais qu'on applique cette méthode de jouer aux écoles pour que la discipline soit meilleure dans des écoles. Parce que même moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était une école conventionnelle catholique à Kwamboura, à l'Étomotéen, on nous fouettait vraiment sérieusement et tout le monde avait peur d'échouer. Et on était très disciplinaire, on craignait les enseignants très fort parce qu'ils nous fouettaient.
D'accord.
C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on explique cette méthode.
Voilà, Jean-Marcel propose qu'on garde, qu'on utilise toujours le fouet parce que sans le fouet, les enfants deviennent têtus et puis de plus en plus indisciplinés. Paul Mboula, vous avez la parole.
C'est normal que notre frère Jean-Baptiste dise que l'on puisse maintenir parce que on n'a pas encore vu hein, les changements qu'on peut obtenir lorsque tout le monde travaille systématiquement pour une société beaucoup plus, qui respecte les droits de l'enfant et là où on peut utiliser des techniques qui aident l'enfant à la conscience que finalement qu'à la brutalité comme nous le voyons ici. C'est vrai que immédiatement on peut remarquer que certains enfants qui ont été fouettés ont été de manière hypocrite ont adhéré à la discipline, mais en fin de compte, comment ils se sont retrouvés? Deuxièmement, il y a un danger. Le danger d'être minimisé par un élève lorsque il a été humilié devant les autres enfants. Donc, quand on parlait de l'âge de l'enfant, lorsqu'il est encore tout petit à l'école primaire ou maternelle, vous pouvez tout faire, mais il y a des enfants déjà qui ont déjà des tares d'une mauvaise éducation venant de la maison, qui peuvent vous insulter en présence des autres enfants et vous humilier. Donc, votre autorité va diminuer. Ça, c'est une chose. Donc, il faut regarder la chose du côté de l'enseignant comme du côté de l'élève. On ne va pas aussi brutalement dire maintenant la chose. Parce que nous n'avons pas encore vu comment est-ce que dans ces écoles, on peut même faire un concours à un moment donné, jeudi, s'il vous plaît. On peut examiner les résultats des écoles primaires comme des écoles secondaires, comparer les écoles et en termes de discipline, voir quelles sont les écoles qui n'usent pas de punitions corporelles, mais qui font de très bons résultats. Le jour où vous allez m'autoriser à faire un peu de publicité, moi je connais beaucoup d'écoles
oui.
où vraiment la discipline est éducative et on fait de très bons résultats par rapport aux autres.
Christian de Kananga avait proposé, si possible, d'exclure l'élève dérangeur, l'exclure pour quelques jours, il reste à la maison, ça va les corriger.
Je l'ai dit avant, pourvu que la maison soit assez éducative, plus éducative que l'école. Sinon, si l'enfant rentre, et ne rentre même pas à l'école, vous avez vu avec moi jeudi que pendant certaines heures de la journée, les enfants ils devaient normalement être à l'école, mais on les retrouve dans la rue.
Ils font l'école buissonnière.
Ils font l'école buissonnière parce que l'école les a renvoyés et ils ne peuvent pas immédiatement rentrer à la maison parce qu'ils seront encore brutalisés en famille. Donc, ils préfèrent rester dans la rue. Et cette façon de faire n'aide même pas l'enfant à s'améliorer parce qu'il dira « Je sais ce que je vais devenir. » Si on me rejette aussi à la maison, donc, je vais me livrer à la rue, ils ne sont pas mauvais. Et parfois, les enfants sont récupérés par ceux qui sont déjà dans la rue. Je suis dans un milieu populaire et je sais comment on devient parfois enfant de la rue lorsqu'on n'est pas allé à l'école. On se livre à des jeux du hasard, on se livre à la consommation de substances psycho-affectives, de sorte que finalement l'enfant devient toxicomane facilement et il est sorti dans la rue.
Bien.
Avec les jeux du hasard, il va finalement désirer chercher l'argent par lui-même et le renvoyer encore à l'école va le goûter. Donc, il ne faut pas casser l'élan de l'enfant qui vient à l'école. Il faut plutôt les stimuler.
Nous allons accueillir deux auditeurs, René de Kinshasa et Ali de Kalemi. René, bonjour.
Capi, bonjour à tous les auditeurs qui m'entendent à ce moment.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux punitions à l'école?
Moi, je pense que la première chose à faire, les enseignants devraient collaborer avec les enfants. En premier lieu, pour ces enfants-là qui arrivent en retard, pour connaître d'abord le motif. Parce qu'on peut condamner l'enfant, peut-être que c'est à cause de parents que l'enfant est arrivé en retard. Et concernant les élèves de rangeurs, moi je pense que dresser n'est pas éduquer. On ne peut toujours pas éduquer avec la chicotte. Il y a plusieurs sortes de punitions qu'on peut donner. Nous qui avons étudié dans des écoles catholiques, souvent quand on dérangeait, on nous donnait des punitions comme des travaux manuels ou encore autre chose à faire. Mais c'était rare de voir un prêtre lever le fouet sur mon corps. C'était vraiment rare. Parce que ça a aussi des impacts négatifs sur la santé de l'élève. Moi, je suppose que les préfets, les enseignants puissent s'entretenir et trouver une solution parfaite par rapport à ça. Dans le sens que, au lieu de frapper l'élève, on peut chercher des punitions liées aux travaux manuels ou un autre moyen pour que l'élève puisse se recadrer sur le bon chemin. Parce que nous avons constaté que dans certaines écoles, après avoir frappé l'élève, les enfants ou les parents de l'élève viennent avec une forte tension pour attaquer l'enseignant qui a frappé l'enfant en question, ou bien pour s'attaquer à la direction. Je pense que ce n'est pas du tout bien. Les préfets, le directeur devraient veiller à ça, s'entretenir avec les enseignants et pouvoir sortir de méthodes sur lesquelles on peut appliquer comme punition sur les enfants. Voilà au moins.
Merci René de Kinshasa. Ali, vous êtes à Kalemi. Bonjour.
Bonjour Radio Kabyle. Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux punitions à infliger aux élèves à l'école?
Bon, moi je pense que tout d'abord il faut signaler que le fouet n'a toujours pas été un moyen radical pour surtout indiquer un enfant. À force trop on le frappe, à force trop on est en train de le perdre. Et donc il y a toujours des punitions beaucoup plus faciles que de fouetter les enfants. Il y a par exemple infliger les enfants. Pour des élèves conscients, bien sûr, quand vous l'infligez par exemple une punition de travail manuel, il peut travailler aujourd'hui et par peur de se gêner, il ne peut pas refaire 3 ou 4 fois par peur d'être puni de la même manière. Donc les travaux manuels. Il y a par exemple les cas d'un élève qui arrive toujours en retard. Ou dans des écoles par exemple catholiques, comme ici au collège Mangaza. Quand vous arrivez en retard, le plus simple moyen, c'est de vous renvoyer à la maison. Et pour des élèves ayant vraiment conscience d'apprendre et de vouloir avancer, des élèves de bonne conscience, il est pratiquement impossible de revoir un enfant revenir en retard 3 ou 4 fois par semaine, par peur de rater les quelques jours de cours. Donc moi je pense que les travaux manuels, les punitions, le manque de cours pendant une courte durée, ça fait en sorte que l'élève soit tellement techniquement éduqué. Bon, moi je pense que ça peut être au moins dans ce sens-là qu'on peut argumenter et éradiquer à ce que les enfants ne soient toujours pas fouettés comme les ont souligné les experts éducatifs.
Bien, merci Ali depuis Kalemi. Bien, voilà, vous venez de suivre là les préoccupations des auditeurs par rapport à cette thématique, quel type de punition à infliger aux élèves. Nous allons marquer une pause pour suivre le temps de suivre les informations et on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission au Capi Service. Restez avec nous.
D'origine. Petite mon paroès, hein? Ton corps c'est Bethléem. Fais de moi le petit Jésus. Cette nuit et celle d'après. Si yo zate, pasó. Dani.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service consacré aux punitions à infliger aux élèves à l'école. Vous savez, plusieurs enseignants et préfets des disciplines recourent au fouet pour corriger les écoliers dérangeurs. Même les élèves qui arrivent en retard dans certains établissements scolaires sont victimes des châtiments corporels. Et pourtant, ces types de punitions ont des conséquences négatives dans la formation et même sur la santé des enfants. Vous avez suivi dernièrement à Kisangani, un élève de la sixième année primaire est décédé après avoir reçu des coups de la part de son enseignant. Voilà, et cet enseignant a été condamné de 3 mois de servitude pénale. Alors comment remettre un élève qui a enfreint une instruction de l'école sur le bon chemin? Quel est le type de punition à infliger aux élèves? Bien, nous venons de terminer avec Paul Mboula, éducateur à la vie. Nous allons accueillir à présent Polydor Tangeli, il est psychologue de travail. Polydor, bonjour. Polydor, bonjour.
Bonjour.
Voilà, bienvenue. On va parler de type de punition à infliger aux élèves à l'école.
Oui.
On peut parler aussi dans les cadres familiales aussi, la famille et puis à l'école.
Exactement.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service consacrée aux punitions à infliger aux élèves à l'école. Vous savez, plusieurs enseignants et préfets des disciplines recourent au fouet pour corriger les élèves dérangeurs. Même les élèves qui arrivent en retard dans certaines écoles sont fouettés. Et pourtant, ces types de punitions ont des conséquences négatives sur la santé des élèves ou dans le processus de formation d'après les éducateurs. Et on a donné l'exemple de ce qui s'est passé dans la province de la Tchopo à Kisangani dernièrement, où un élève est décédé de la sixième année primaire, est décédé après avoir reçu des coups de fouet de la part de son enseignant. Alors nous avons en ligne Polydor Tangeli, il est psychologue. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs.
Alors Polydor, dites-nous, le fouet, cette punition sur le plan psychologique, qu'est-ce que ça représente pour les élèves?
Au fait, pour répondre à votre question, il faut d'abord rappeler que les parents, tout comme les enseignants, sont là pour éduquer les enfants. Et pour les éduquer, les actions ou les actes qu'ils doivent poser vis-à-vis des enfants doivent consister à leur offrir des opportunités éducatives en termes de règles, en termes de principes, à terme de modalités d'application, de réalisation de tel ou de tel autre acte. Et la punition intervient lorsque, dans une certaine mesure, les règles ou les modalités de comportement ne sont pas opérées comme attendu par les parents. Et c'est comme ça que on recourt souvent à la punition. La punition en soi n'est pas une mauvaise réalité. C'est pas un mauvais. On ne fait pas un mauvais recours. Mais faut-il encore que la punition soit, elle aussi, une opportunité éducative pour l'enfant? Et cette évidence fait appel à la notion de la parentalité positive ou encore de l'éducation positive. La punition comme telle doit consister à aider l'enfant à grandir, aider l'enfant à se développer, aider l'enfant à changer positivement plutôt que négativement. Et toute punition qui consistera à frustrer l'enfant, toute punition qui va consister à réduire le degré de confiance en soi chez l'enfant, toute punition qui va isoler l'enfant et développer en lui un complexe d'infériorité est une punition qui n'est pas une opportunité éducative pour l'enfant. Et c'est une punition qui détruit plutôt l'enfant, et plutôt que d'éduquer l'enfant, de l'aider à se développer, on peut l'enfant, et la littérature renseigne que plusieurs enfants ont été désorientés à cause des éducateurs qui ont fait un mésusage de la punition. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu.
Alors, nous savons que le fouet a été interdit. On peut dire que l'usage du fouet n'est pas une bonne punition.
L'usage du fouet n'est pas bon en soi. De quelle manière ? Le fouet représente une certaine agressivité. Vous voyez ? Il y a une certaine atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Ce qui a comme conséquence, l'enfant va développer la peur, l'enfant va développer un certain évitement et l'enfant va développer une double face. Donc, il aura un comportement qui va afficher en dehors du fouet et l'autre, il est en face du fouet. Donc, le fouet est vraiment à déconseiller puisque non seulement il représente une menace, mais il suscite la peur, et la peur amène l'enfant à se recroqueviller vers lui-même et à être opaque vis-à-vis des opportunités éducatives à offrir à l'enfant.
Bien. Il y a quelques auditeurs qui ont appelé dans la première partie de cette émission. Par exemple, René de Kinshasa nous a dit, au lieu de fouetter l'enfant, il faut plutôt les soumettre à des travaux manuels. Et cela va l'aider à se corriger.
Au fait, la question lorsqu'il faut se poser lorsqu'on est en face d'un enfant qui ne s'accommode pas aux principes et règles édictées, c'est de savoir pourquoi il le fait. Pourquoi il affiche un pareil comportement. Et la solution au problème ne doit pas être à côté du problème. Donc, la réaction de l'enseignant doit consister à aider l'enfant à trouver la solution au problème. Des fois, il y a des punitions qui sont désaxées. J'ai une punition, par exemple, j'ai commis un dérapage, un égard de comportement au plan de la sociabilité avec mes élèves, avec mes collègues élèves, avec mes frères et sœurs, mais la punition est orientée sur les activités qui n'ont rien à voir avec ça, par exemple, puiser autant de seau d'eau, être fouetté, être mis à genoux, tout ça. Donc, ça n'a aucun rapport. Il faut punir l'enfant par rapport au problème, à l'écart qu'il a affiché. Et c'est comme ça, par exemple, je me rappelle de certaines punitions éducatives que nous avons eues à l'école. Par exemple, vous ne savez pas conjuguer le verbe présent, le verbe être au temps présent,
oui.
On vous demande de l'écrire 150 fois, ou bien sur 10 pages. Vous voyez ? Donc, c'est une punition, c'est une activité coercitive, mais qui cadre avec le problème que l'enfant a posé.
Mais si on demande, par exemple, à un élève d'écrire 100 fois ou 1000 fois, je ne dérangerai plus en classe. Est-ce une punition positive?
Je ne dérangerai plus en classe. Et cette phrase elle-même n'offre pas une opportunité éducative. Hein, puisque le contenu même de l'action punitive doit être une opportunité éducative. Nous allons suggérer par exemple une phrase du genre « Déranger en classe ne permet pas de comprendre la leçon. Déranger en classe distrait mes amis. Déranger en classe ne me permettra pas de réussir. » Vous voyez, c'est différent. On est en train à la fois de rappeler à l'enfant l'objectif pour lequel il est dans la salle de classe. Donc, si punition il y a, la punition doit être axée sur l'écart de comportement qu'a affiché l'enfant, puisque elle doit être positive. Par positive, nous attendons aider l'enfant à stimuler les potentialités qui sont les siennes en vue de son développement harmonieux.
Bien, nous allons accueillir un auditeur, Maxime, depuis Louisa. Bonjour.
Oui, j'ai dit bonjour aux auditeurs et bonjour à mes prédécesseurs. Par rapport aux punitions infligées à l'école, je trouve qu'il y a une grande différence par rapport à celle que moi j'ai reçue quand, à mon époque, j'étais à l'école. Bon, par rapport à cela, je trouve cette grande différence puisque aujourd'hui, ce sont les impunités corporelles qui sont infligées aux élèves. Alors que moi, à mon époque, c'était différentes punitions qu'on nous infligeait. Par exemple, on pouvait te faire passer un coup ou une heure de coup. Tu pouvais partir à la maison pour soit des jours ou trois jours. Alors, cela a été vraiment éducatif pour nous parce qu'on savait qu'une fois que je perds un cours ou je perds un quart d'heure dehors, le cours là va me passer. Et ça serait difficile pour récupérer cela parce qu'à notre époque, il n'y avait pas une récapitulation de la matière déjà vue. Parce qu'on savait qu'à ce moment-là, il y avait aussi des impunis, des indisciplinés qui pouvaient arriver. Et je sais qu'en tant que pédagogue, il y a une grande différence entre l'éducation de l'enfant et le dressage. On ne peut pas infliger un dressage à un homme. Alors, le dressage est bien précis ou est préconisé pour une bête. Alors, un enfant qui reçoit des coups et des fouets par son enseignant dans une école, est-ce qu'il est en train d'être éduqué ou il est en train d'être dressé? Il est considéré comme une bête, je pense. Alors, les enfants ont des droits aussi qui doivent être respectés. Si les enseignants les infligent des fouets et des coups corporels, je pense qu'ils ne respectent pas leurs droits. Alors, ça doit être une façon pour les enseignants de comprendre que les punitions qu'ils infligent aux enfants actuellement, ce ne sont pas les punitions propres ou qui correspondent, mais ils doivent revoir leur façon de discipliner les indisciplinés qui sont dans leur classe.
Merci. Merci Maxime depuis Luisa. Charlie, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour la Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, ce n'est pas juste au moins une préoccupation, mais c'est juste au moins une analyse. Donner aux écoliers des coups de fouet, ce n'est pas la solution. D'ailleurs, ça peut travailler psychologiquement l'enfant de ne plus comprendre la matière du jour et impacter son échec. Pourtant que les écoles sont là pour encadrer, former et aider les enfants le plus faible à comprendre les matières du jour. Alors, aujourd'hui, nous voyons que les écoles commencent premièrement à former quoi? Des bandits. Parce que lorsque vous frappez l'enfant tous les jours, l'enfant va s'habituer et il va ne fût-ce continuer, ne fût-ce qu'à faire les choses que vous refusez. Je préconise comme solution, si l'enfant a pu déranger à l'école, qu'on puisse au moins l'infliger quoi? Les salons spéciaux. Il peut balayer dans la cour de l'école. Et non chez les chefs d'établissement ou chez les enseignants. Parce que c'est au moins une habitude qui se passe dans certaines écoles, que ce soit publique ou privée.
Quelles habitudes?
Donc, si l'enfant a dérangé ou bien si l'enfant est venu à l'école en retard, on doit ne plus qu'au moins l'envoyer chez les chefs d'établissement ou chez un certain enseignant pour qu'il puisse au moins travailler ou bien faire au moins les travaux manuels. Supposons ce qui se passe au village, c'est quoi? Les enfants ont toujours l'habitude d'aller sarcler le maïs chez certains enseignants ou bien chez les chefs d'établissement lorsqu'il a commis au moins cette faute. Aussi, je complète, si l'enfant persiste aux autres punitions qui sont premièrement légères, on peut au moins les renvoyer. Parce que ça, c'est au moins une solution, ou bien une solution qui est premièrement finale. Parce que prenant moi, le coup de fouet possède beaucoup de conséquences. Moi-même, j'étais victime lorsque je suis en deuxième primaire. J'ai pu au moins déranger, et l'enseignant m'a donné des coups de fouet. Dès lors que j'ai reçu des coups de fouet, je n'avais pas encore le courage d'aller à l'école, parce que j'avais peur que l'enseignant pouvait encore me frapper. Pour que cela puisse au moins disparaître dans ma tête, ça m'a pris beaucoup de jours. D'où, je demanderais ne fût-ce qu'au moins au chef d'établissement, aussi à notre ministre de l'EPSP, qu'il puisse ne fût-ce qu'au moins renforcer des mesures afin que les enfants puissent ne fût-ce que bien étudier au lieu que les enfants puissent ne fût-ce qu'au moins subir ce genre de comportements.
Merci.
Merci
Charlie de Kananga. Bien, nous allons accueillir un auditeur. Il s'agit de Mwabilou depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
Nous parlons des types de punitions à infliger aux élèves à l'école. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je voudrais dire par rapport au type de punitions à infliger aux élèves à l'école. Parce que selon les sujets, vous avez dit que plusieurs enseignants se donnent à des souhaits comme punition aux enfants à l'école. Alors que nous connaissons bien sûr qu'il y a certains enfants, à partir de leur maison, ils ont d'abord raté l'éducation. Malgré que les parents ont tout fait pour essayer de les mettre sur les bons chemins, ils sont toujours en train de déraper par rapport à la bonne morale. Et ils amènent cette mauvaise manière à l'école où ils embrouillent les enseignants même quand ils sont en train de forcer à dispenser la matière, à faire comprendre la matière aux élèves. Et vous trouvez qu'un certain autre élève, un enfant mal éduqué depuis chez lui, il est en train de faire du bruit. Alors, il y a de ces parents, de ces enseignants-là, qui s'adonnent à des fouets. Alors que ce fouet, ce n'est pas seulement le fouet qui peut être une solution pour remettre l'enfant en ordre. Parce que même la pédagogie elle-même dit, dresser n'est pas éduqué. Pour dire que le fouet aussi, c'est parmi les mesures qui sont mises dans les comptes de dresser. Donc, il y a plusieurs manières d'éduquer un enfant qui est indocile. Parce que, au moment où il cause des problèmes à l'école, ce n'est pas seulement fouetter qui peut être une solution. Vous pouvez toutefois lui demander de rentrer à l'école, à la maison, et ramener les parents demain, ou vous pouvez l'exclure pendant la période en cours, tout comme vous pouvez lui demander de balayer la cour, vous pouvez lui demander d'amener un balai demain. Donc, ce sont des manières aussi possibles à remettre les enfants sur les rails au lieu de les chicoter seulement parce que, en chicotant ou en donnant des coups de poing, parce que j'ai déjà vu un enseignant qui se bat normalement avec un élève parce qu'il a dérangé. Pas même le coup de poing comme vous l'avez mentionné là. Des coups réels avec un enfant. Et l'enfant commence à répliquer. Pourquoi? Parce que il a trouvé que l'enseignant n'a pas marché, n'a pas puni comme il se doit. Là, ça peut devenir une infraction. Parce que d'accord, quand vous battez, vous tapez un enfant d'autrui fortement. Si on vous choisit la justice, il y a toute possibilité que la justice puisse s'investir et vous punir parce que tout celui qui se met dans de tels actes est punissable par la loi.
Merci beaucoup. Alors, Polydor Tangeli, les auditeurs nous disent que Charlie de Kananga nous a dit que le fait de frapper, de fouetter tous les jours un élève, il deviendra insensible et il va encore s'entêter davantage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oh, en fait, ça revient à ce que j'avais dit. Le fouet est vraiment désaxé. Et l'enfant va développer deux types de comportements. Un comportement avec fouet, un comportement sans fouet. Et il aura deux mondes avec lui. Pourquoi? Puisque la peur va passer au devant. Et l'hypocrisie va venir de soi. Voilà pourquoi nous décourageons le fouet. On a évoqué par exemple le cas d'un élève qui fait du bruit dans la salle. Dans un cours de mathématiques, il est en train de faire du bruit. Une opportunité éducative qu'on peut donner à l'enfant, c'est de lui demander de passer au tableau et de résoudre l'exercice qui est en cours. Vous voyez, il passera au tableau, il fera piètre figure. Et on va essayer de lui dire, voilà, vous n'avez pas compris puisque vous étiez en train de déranger. Rentrez à votre banc et vous allez résoudre le prochain exercice. Vous allez voir qu'il va afficher les comportements contraires. Donc, le fouet est à prohiber pour autant que c'est une atteinte à l'intégrité physique de l'être humain d'abord. À ce titre-là, c'est à écarter à tous les prix. Et il faut humaniser la relation entre les parents et les enfants, l'enseignant et l'élève, à travers des opportunités. En fait, que peut faire le bruit et vous tentez de vous concentrer sur ceux qui sont en train de suivre le cours. Nous avons été dans des grands auditoires, dans des grands auditoires où vous êtes à 800, à 1000, et quand vous faites des bruits, l'enseignant diminue le volume. Il est en train de punir ceux qui font des bruits.
Bien, nous poursuivons cette émission au Capi Service. Quelle punition infligée aux élèves à l'école? Désolé, nous étions en train de changer avec Polydor Tangeli, qui est psychologue, mais il n'est plus en ligne, on n'arrive plus à entrer en contact avec lui. Eh bien, nous allons accueillir un autre invité pour parler, pour aborder ce thème. Il s'agit du chef des travaux, Théophile Mumpalo. Il est psycho-éducateur. Théophile, bonjour.
Bonjour, Yodit.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse au type de punition à infliger aux élèves. Nous savons que plusieurs enseignants et préfets des disciplines recourent souvent au fouet pour corriger les écoliers dérangeurs. Même ceux qui arrivent, les élèves qui arrivent à l'école en retard sont fouettés, ils subissent des châtiments corporels. Et pourtant, ces types de punitions ont des incidences, des conséquences sur la santé ou sur la formation des élèves. Alors, quels sont les types de punitions à infliger aux élèves pour les corriger, pour les discipliner? Théophile Mumpalo, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Judith, pour la parole. Je voudrais attirer l'attention de ces enseignants qui commettent des gaffes en fouettant les enfants, en utilisant ce que vous appelez, vous avez bien fait, d'après les punitions corporelles. C'est défendu par le droit de l'enfant. Ce sont des gens qui n'ont pas été au courant ou bien qui n'ont pas été formés en droit de l'enfant. Et je suppose qu'ils devraient suivre une formation adaptée au droit de l'enfant pour connaître quelles sont les punitions qui sont dévolues à eux, qui leur incombent pour pouvoir sanctionner les enfants. En réalité, il y a ce que vous avez bien appelé, il y a des punitions interdites, et puis il y a des punitions qui sont plus ou moins positives qu'on peut utiliser. Donc, à part le fouet qu'il faut écarter carrément, et puis le coup, parce que vous pouvez blesser l'enfant, et en ce moment-là, vous aurez tous les parents sur votre dos, eh bien, il faut recourir à ce qu'on appelle les sanctions positives, absolument. Et, par exemple, quoi? Des réprimandes, la réprimande, n'est-ce pas? Vous réprimandez l'enfant, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle la retenue en classe. Par exemple, pendant que les enfants, les autres amis rentrent à la maison, l'enfant peut rester pendant quelques minutes à l'école, pourquoi pas? Hein, même si, quand le cours, par exemple, quand le cours se donne, vous pouvez le punir également, lui demander de se mettre debout et de se placer au coin de à l'intérieur de la classe, au coin, un coin qui ne donne pas accès à l'extérieur, parce que sinon il va se distraire. Un coin qui est carrément bloqué sous forme de cachot, en fait. Bon, il y a également, on peut recourir aussi. Ah, ça, c'est pas indiqué, mais quand même, on peut utiliser ça, n'est-ce pas, lui donner des mauvais points, parce qu'il y a certains établissements qui cotent la discipline de l'enfant. Hein? Il faut, sur 10, par exemple, dites, cette fois-ci, vous avez 4 ou bien 2, ça lui fera mal, absolument. Il y a également, on peut recourir également à ce qu'on appelle l'exclusion temporaire de l'enfant. Mais avant de l'exclure, il faut convoquer les parents. Vous convoquez les parents, vous leur expliquez ce qu'il y a, hein, et en ce moment-là, vous pouvez en arriver jusqu'à ce niveau-là. Il y a également ce qu'on appelle, c'est devenu un peu rarissime ce dernier temps, le balayage. Le balayage, le ramassage de papier, bon, ça, c'est pas tellement courant, mais on peut toujours recourir à ce genre de situation. Il y a également, vous pouvez vous proclamer le résultat, mais lui n'est pas au courant. Vous dites, comme vous vous êtes mal comporté, vos points seront connus prochainement. Et ça fait partie des sanctions positives ou ce qu'on appelle également sanctions persuasives. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure.
Bien, nous allons accueillir deux auditeurs, Benjamin de Kananga et Peter également, et dans la même ville. Benjamin, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je suis Daniel Kachama. Bonjour à l'invité qui est sur les plateaux et bonjour à tous. De la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux punitions à l'école?
Oui, mais c'est joli. Avant tout, je vous remercie d'avoir aligné un sujet comme ça, parce que vous avez touché la moelle épinière, là où les choses ne vont plus. Voilà pourquoi je vais entrer en matière pour dire que, en pédagogie, toutes les punitions corporelles sont interdites. Et à chaque rentrée, je crois que la réunion préparatoire est tenue avec tous les enseignants à l'école. C'est pour qu'ils puissent être en mesure d'observer scrupuleusement les notions qui leur seront transmises par le préfet et même le directeur. Mais dommage, hein, parce que toutes les exigences pédagogiques ne sont pas observées, mais c'est jeudi, et par les préfets et par les enseignants. Conséquence, il y a parfois les échanges de coups entre les enseignants et les élèves, voire même le préfet. Et certains responsables scolaires sont traduits en justice par le parent des élèves. Je vais vous donner des cas réels ici à Kanarmé ce jeudi. Dans l'école où je donne cours, il y a eu une autre fois échange de coups entre l'enseignant du cours des français et aussi un élève de la troisième commerciale. Et cet élève-là a été renvoyé définitivement de l'école. Encore une autre fois, un enseignant a tapé sur un élève et le fouet a touché son nez droit. Et c'était grave, mais c'est jeudi. Dans une école privée du côté canadien là-bas, un enseignant a supporté les soins médicaux d'une fille qui lui-même a mal fouetté à l'école. Or, toutes ces mauvaises pratiques sont interdites en matière de l'éducation. Et je vous rappelle autre chose. Dans les cours de principes de l'éducation, on fait un parallélisme entre éduquer et élever. Donc, ça sous-entend qu'on élève un animal, mais différemment d'une personne. Donc, une personne doit être éduquée et non élevée. Et les enseignants de toutes les écoles qui m'écoutent doivent se rappeler que la tâche de l'éducation est confiée d'abord aux parents. Mais quand ces derniers deviennent incapables en matière d'éducation, ils lèguent les responsabilités aux autorités scolaires appelées éducateurs professionnels. C'est parce qu'ils sont dotés d'un plan précis en matière de l'éducation. Alors, comme solution, moi, je trouve que pour remédier à cette situation, il y a certaines punitions qu'on doit de soumettre aux élèves. Par exemple, si un élève est en train de déranger l'enseignant, ou soit il est venu en retard à l'école, l'enseignant appelle le frère à genoux, ou soit le préfet. Il peut, par exemple, renvoyer les élèves des cours et exiger la présence de leurs parents et autres. Et là, je veux citer tout en interpellant la conscience professionnelle de nos autorités scolaires. Elles doivent observer scrupuleusement toutes les notions pédagogiques qui interdisent les punitions corporelles.
D'accord. Merci, Benjamin.
Il y a une bonne ambiance scolaire, mais c'est jeudi.
Merci, Benjamin de Kananga. Peter, vous êtes aussi dans la même ville. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux punitions à l'école?
Vraiment, monsieur Jody, comme venait d'intervenir mon prédécesseur et aussi les avis avancés par notre invité qui est avec vous au studio, vraiment, c'est décevant le comportement que les élèves affichent actuellement dans les écoles. Et voulant aborder dans le même sens que le prédécesseur, Jody, j'ai été une fois enseignant cordeau dans une école. Et nous savons que chaque école doit marcher sur base d'un règlement intérieur. Aucune école ne fonctionne sans un règlement intérieur. Et sur base de ce règlement intérieur, tous les élèves sont en possession de ce règlement-là. Et lorsque l'élève marche à l'encontre de ce règlement, il y a aussi des sanctions et punitions dans chaque article du règlement intérieur concernant les élèves. Et concernant aussi les enseignants entre eux-mêmes et aussi les enseignants avec les élèves. Donc il y a des règlements au sein de l'école, un règlement qui régit le comportement, le fonctionnement, le comportement que les élèves doivent afficher, aussi un règlement qui régit les enseignants vis-à-vis d'eux-mêmes, aussi vis-à-vis de leurs élèves.
D'accord. Quelle est la question que vous adressez à l'invité Théophile Mompalo?
La question que je voudrais... Non, je n'ai pas une question à poser, mais sinon je voudrais contribuer en ces termes. Nous avions connu des réformes dans le système éducatif congolais. Ces réformes-là, M. Jody, n'ont pas apporté ce que l'éducation congolaise avait besoin. Actuellement, le fait de supprimer les cours d'éducation morale, nous avions appris ça, le comportement que l'élève doit afficher vis-à-vis de son enseignant, le comportement à l'église, même dans la cité. Aujourd'hui, actuellement, beaucoup d'enseignants n'insistent pas sur le comportement que les élèves doivent afficher vis-à-vis de leurs autorités sur place à l'école, ce qui fait que certaines autorités parviennent à infliger aux élèves des punitions corporelles, nuisant même à leur santé.
D'accord, merci. Merci Peter d'avoir appelé de Kananga. Théophile Mompalo, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup.
À propos des punitions interdites, à part les punitions corporelles, les fouets, les coups et blessures, tout ça, bref, l'agressivité de l'enseignant sur les élèves, ça c'est vraiment interdit par le droit de l'enfant, y compris le règlement de l'école. Il faut ajouter également l'usage d'argent. Il y a des enseignants qui utilisent, qui demandent, bon, comme tu as commis cette faute, bon, il faut m'apporter, il faut me donner autant pour que puisse corriger ça. Par exemple, 5 000 ou bien 1 000 francs, ainsi de. Surtout, l'usage d'argent aussi est prohibé, absolument prohibé. Donc, ce sont là une série de mesures, des règlements qui régissent l'école et qui donnent droit aux élèves d'acquérir de bonnes habitudes sur le plan de moral, comme a dit le collègue de tout à l'heure là, sur le plan moral, sur le plan de la ponctualité. Ils doivent être ponctuels, ils doivent être prompts, ils doivent développer en eux le souci du travail bien fait, ils doivent développer encore certaines compétences sur le plan de la propriété. Tout ça, ça fait partie du règlement. Et ces règlements-là doivent être donnés sous forme d'enseignement tout au début de l'année scolaire. Après avoir inscrit les élèves, eh bien, avant que l'école, les élèves ne puissent commencer à fréquenter, vous leur donnez les directives qui régissent ce règlement-là, qui définissent les règlements de l'école, qu'on appelle les règlements d'ordre intérieur. Et ces règlements ne concernent pas seulement les enfants, les élèves, ça concerne aussi l'ensemble du personnel de l'école, absolument. Parce que ce sont qui sont appelés à appliquer ça sur le terrain. Par exemple, un chargé de discipline, comme j'en ai trouvé dans une école là, vers 15h j'arrive, je le vois, curieusement c'était un religieux, avec une corde sophistiquée. Eh bien, il avait toute une salle de torture des enfants, vers 15h. vers 15h, Yodide, je l'ai trouvé tout transmis.
Avec un fouet sophistiqué.
Un fouet en train de torturer les enfants. Je lui demande, ce fouet-là, à quoi ça... Il dit, mais vous avez vu les enfants indisciplinés. J'ai dit, formidable, heureusement, bon, comme c'était un religieux, je me suis réservé, mais je suis rentré frustré. J'ai dit, heureusement que je n'ai pas trouvé mon enfant parmi les victimes. Sinon, j'allais me venger à sa place.
Donc, Théophile, il y a certains parents dont les enfants ont été punis qui font des descentes punitives à l'école pour aller régler les comptes à l'enseignant.
Mais vous blessez mon enfant. L'enfant arrive tout blessé. Hein? Comme je me rappelle, j'étais en troisième année, quatrième année primaire, on jouait au football. Il y a un collègue, pendant qu'on jouait, qui m'a un peu obstrué, là, m'a percuté, et ça m'a blessé au niveau de l'œil droit. J'arrive à l'école, tout ça, l'école me dit, non, il n'y a pas suffisamment de... Il faut arriver chez les parents. Mon père a dû faire une descente punitive à l'école. Il dit, mais comment? Vous avez blessé mon enfant au lieu de le protéger. Vous voyez, ça risque de provoquer tout un tas de problèmes qui sont pas saisissables, disons, qui sont difficiles à pouvoir corriger en ce moment-là. Donc, il faut faire très attention avec les punitions corporelles, il faut faire attention avec l'usage d'argent, surtout aujourd'hui, et privilégier plutôt les sanctions persuasives, ce que nous appelons, ce que nous considérons comme étant des sanctions positives. Voilà. Ce que je peux ajouter.
Théophile Mumpalo, il y a certains enseignants qui demandent aux élèves, allez, vous allez... par exemple, vous mettre à genoux sur des bouchons sous le soleil, tout en regardant le soleil en train de briller. C'est une bonne punition, celle-là.
Et ne sont pas différents des colons. Les colons sont partis, ils peuvent être considérés comme des néocolonialistes. Parce que j'ai vu des prisonniers comme ça quand j'étais gosse, vers les années 60, 61, tout ça, avant l'arrivée de l'agence sanitaire. C'est ce qu'on leur faisait, des adultes. On leur demandait de se mettre sur des morceaux de verre, n'est-ce pas, en regardant le soleil. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'école et la société de cette époque-là, puisque ça a été prohibé? C'est contre-indiqué, on ne peut pas utiliser. C'est une forme de sanction corporelle qu'il faut carrément évacuer. Voilà ce que je peux
ajouter. Et une autre punition, mettre la tête en bas, les jambes en l'air contre le mur, voilà, surtout pour les indisciplinés.
Ah,
Et il transforme les élèves à Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, quand il voulait, on voulait on l'a crucifié, là, il a demandé qu'on mette la tête en bas, les pieds en l'air. Non. Ça, c'est une forme de, ce n'est même pas une forme, c'est une punition corporelle qu'il faut vraiment, éviter dans nos écoles. Absolument. Parce que ça risque de donner lieu à des blessures, à des conséquences qui seront très difficiles à pouvoir corriger.
Un auditeur nous a écrit pour dire qu'il y a certains enfants qui sont mal éduqués déjà, à partir de la famille, et ils n'ont pas reçu une bonne éducation, il n'y a jamais eu de punition, ils sont choyés. Alors quand ils arrivent à l'école, bien, ils sont insupportables, alors l'usage de fouet se justifie à ce moment-là.
Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a moyen, j'ai donné toute une pratiquement un répertoire de des sanctions positives qu'il faut appliquer à l'endroit des enfants. D'abord, il faut le découvrir en pleine faute. Dès que vous le découvrez, il y a moyen de le punir. Vous savez, il y a des enfants qui se comportent un peu comme des meneurs à l'école. Ils se comportent comme des meneurs. Et c'est facile à les détecter quand on est enseignant. Hein. Dès que vous entrez dans une classe, là, lorsque vous sollicitez le calme, eh bien, tout de suite, vous verrez que parmi ceux qui vont continuer à s'agiter, il y aura quelques meneurs. Alors, il y a moyen de les faire descendre de leur piédestal. Écoutez, vous les envoyez au tableau, écrivez-moi le chapitre de telle leçon. Et comme la plupart ne savent pas écrire, ils ont des difficultés. Un meneur, quand vous l'envoyez comme ça au tableau, tout de suite, il redevient plus calme. Parce que il fait l'objet de la risée de toute la classe.
Oui.
Il y a une façon, voilà une façon de le corriger. Alors, un enfant têtu comme ça, avec des exercices comme celui-là, quand vous l'attrapez en flagrant délit, je crois que à la longue, petit à petit, et puis avec les dialogues, avec des petites causeries pendant la récréation, vous pouvez le récupérer.
Voilà. Bien. Un auditeur de Mbandaka, Ezekiel, nous a dit qu'il faudrait plutôt établir un dialogue entre l'école et la famille. Si l'enfant s'est méconduit, bon, il faut le signaler dans le cahier de communication. Comme ça, les parents aussi à la maison, et ils peuvent le punir.
Oui, j'ai dit ceci. Lorsque vous devez exclure, par exemple, un enfant, suite à une flagrance qu'il a commise, il a été impoli envers l'enseignant, par exemple. Et ça se répète comme ça. Mais vous convoquez les parents. Parce que vous ne pouvez pas exclure l'enfant sans que les parents en soient au courant. Vous convoquez les parents, vous leur expliquez ce qu'il y a, eh bien, qu'ils corrigent leur enfant. S'ils ne contribuent pas, parce que l'œuvre éducative, c'est une œuvre collective, eh bien, s'ils n'obtempèrent pas en ce moment-là, vous pouvez en arriver jusqu'à ce niveau-là, parce qu'ils ne vont pas se plaindre, parce qu'ils seront déjà au courant. Ils seront mis au courant de la situation. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut prendre des sanctions à l'endroit de ce genre de cas.
Bien. Quel type de punition à infliger aux élèves? On en parle dans cette deuxième partie de l'émission au Capi Service avec Théophile Mompalo, psycho-éducateur. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radioocapi.net.
Au Capi.
Bien. Nous allons accueillir Paul de Kananga. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Paul, par rapport aux punitions à l'école?
Alors, merci beaucoup. J'ai dit d'abord bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Et j'ai dit encore pour la seconde fois bonjour à vous-même, messieurs les journalistes. Vraiment, le sujet était intéressant. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai essayé quand même de lancer mes commentaires qui est affiché là sur page Facebook. Alors, ce que je veux vous dire maintenant, c'est quoi? Vraiment, c'est un problème où j'ai toujours parlé et chaque fois, quand je vois même les enfants en train de pleurer, je suis tapé à l'école, je suis. Donc ça me fait vraiment mal. Pourquoi? Il y a des formations que UNICEF, pas même seulement UNICEF, mais il y a d'autres organismes qui se donnent. Enfin, comme nous connaissons d'ailleurs que UNICEF est en premier lieu, c'est un organisme qui se donne plus de l'éducation des enfants. C'est pourquoi nous allons souhaiterais surtout les chefs d'établissement de penser de ne plus continuer à fouetter les élèves. Parce que les écoliers, ce sont les gens qu'on peut les éduquer moralement que de les taper. Une fois qu'ils sont en train de continuer à taper les enfants d'autrui, leurs parents sont en train de s'énerver parce que nous avons constaté même si quand on fouette l'enfant de quelqu'un, son père parvient même à aller à l'école pour aller attaquer les chefs d'établissement, voire même les anciens. C'est pourquoi je souhaiterais ceci. Il serait mieux que nos chefs d'établissement pensent à punir les élèves moralement. S'il faut même les punir, qu'ils peuvent lui donner même là-haut la machette, des cercles, des travaux, quoi que ce soit, que de taper. Parce que le fait de taper l'élève n'est pas synonyme de faire comprendre. Même à la maison, si vous tapez l'enfant, je ne suis pas sûr que l'enfant là peut rester avec mes réductions, mais les miens à faire pour encadrer mieux l'enfant. Il faut toujours avoir des manières, savoir quelles sont les disciplines que je peux punir l'enfant que de taper. Vraiment, je n'ai pas surtout sur ça. En plus, les conseils sont nécessaires. Les conseils sont nécessaires. Il serait mieux de produire les sages conseils aux élèves, aux écoliers, pour savoir, à travers les propos, à travers les conseils qu'on m'a produit par tel, si je les mets en pratique, est-ce qu'il y aura encore des conséquences ou pas. Voilà la raison pour laquelle, messieurs les journalistes, j'ai préféré...
Bien, merci. Merci Paul depuis Kananga. On va donner la parole à Wisson de Sakania. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation, Wisson?
Oui, ma préoccupation était de savoir, donc comme j'avais laissé un commentaire, je voulais juste donner un petit conseil aux enseignants, car cela me rappelle quelque chose que j'avais vécu lorsque j'étais encore écolier.
Oui.
Donc il y avait un bruit quelque part dans la classe et l'enseignant étant distrait, il était venu tomber sur moi pensant que c'était moi qui dérangeais. Il m'avait tapé jusqu'à me blesser grandement. Et je suis resté avec une cicatrice lorsque je la vois. Ça me rappelle beaucoup de choses et ça me donne une leçon que je ne peux jamais faire la même chose lorsque je serai enseignant.
L'enseignant vous a tapé jusqu'à vous blesser?
Oui, l'enseignant m'avait tapé jusqu'à me blesser et c'était vraiment grave à cette époque-là.
Oui. Alors, il vous a tapé avec quoi? C'était avec un fouet, une règle ou il a utilisé ses mains pour vous corriger?
Bon, il avait utilisé un fouet et lorsqu'il me tapait, le sommet du fouet était entré dans mon avant-bras et ça m'avait causé trop de douleur.
Voilà, et quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Ouais, la question que j'aimerais adresser à l'auditeur était de savoir est-il nécessaire réellement ou est l'unique moyen de pouvoir corriger un élève, quel que soit son erreur, est-il réellement possible de pouvoir taper ou y aurait-il d'autres suggestions à pouvoir proposer aux enseignants? De quelle façon devrait-il corriger les élèves qui commettent des erreurs durant les périodes scolaires?
Bien, merci. Nous allons accueillir Faustin de Goma. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux sanctions, disons, aux punitions à l'école?
Ma préoccupation est que les experts de l'éducation, parfois, ils nous imposent ce qu'ils copient de l'Europe. En Europe, bien sûr, ils travaillent dans des conditions différentes de celles de la RTC. Alors, imaginez par exemple, il y a une instruction où il est dit que il ne faut pas regarder un élève, il ne faut pas montrer les doigts, il ne faut pas les toucher même. Donc il est plus protégé. Pendant que ce même enfant-là, dans la classe, il n'est pas docile. Il n'est pas. Donc même pour le tout, même pour lui parler, il est orgueillé. Maintenant, que doit faire l'enseignant? Est-ce qu'il doit se taire? Est-ce qu'il doit laisser les désordres dans la classe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais avec un peu de chicot, on va quand même se mettre à notre. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a un parent qui était venu dans ma classe, moi, avec son enfant. Il dit vraiment, cet enfant, même à la maison, il est devenu très simple. Vraiment, en cas de problème, il faut les fouetter. Imaginez un parent d'une équipe comme ça.
D'accord. Donc, le parent vient vous dire que l'enfant, même à la maison, ça marche pas, il faut le fouetter un peu. Théophile Moupal. D'accord, merci beaucoup. Théophile Moupal, vous avez la parole.
Ok. Bon, je reviens au départ, hein, à la, disons, point de départ. Les sanctions font partie de la discipline scolaire. Et qui dit discipline scolaire, dit règlement scolaire. Donc, au début, lorsque les enfants doivent commencer à fréquenter l'école, la hiérarchie de l'école, le staff de l'école, dont le numéro un, c'est le préfet, ils doivent se donner la peine, surtout le préfet. À défaut, s'il est empêché, c'est le directeur des études. Eh bien, le préfet doit se donner la peine d'expliquer le contenu du règlement de l'école. Ce contenu est fait des devoirs des enfants par rapport à l'école, ce qu'ils doivent faire, les devoirs, et les obstacles qu'ils doivent surmonter, ainsi que les conséquences de non-respect de ce règlement-là. Donc, il leur explique, il se met à leur disposition et les enfants lui posent tout un tas de questions qu'il est appelé à éclairer. Il doit leur éclairer tout ça. Rien ne peut demeurer dans l'ombre, absolument. Tout doit être clair, parce que l'obscurantisme risque de provoquer des conséquences incalculables comme celles auxquelles fait allusion notre dernier intervenant de tout à l'heure. Là. Eh bien, alors, cette discipline-là comprend ce qu'on appelle la discipline préventive et la discipline sanctionnelle. La discipline préventive, c'est ça que j'ai appelé le règlement scolaire, parce que les enfants savent quels sont leurs devoirs, qu'est-ce qui les attend dès qu'ils commencent le cours, les enseignements. Et quelles sont les sanctions? On doit leur préciser également les sanctions qu'ils peuvent subir au cas où ils ne respectaient pas le contenu de ce règlement-là. Et là, je tombe sur la discipline sanctionnelle. J'ai parlé de la discipline préventive qui est définie par le règlement scolaire. Il y a maintenant le deuxième aspect, c'est la discipline sanctionnelle positive ou persuasive. Les sanctions positives et les sanctions négatives. Pas négatives qui les attendent, les sanctions positives qui sont à la disposition de l'école et auxquels les enfants peuvent subir au cas où ils ne respectaient pas ce règlement-là. Parmi les sanctions positives, j'ai parlé de dialogue, la réprimande. Mmh. Les enfants doivent savoir qu'en cas de manquement, on peut le convoquer au dialogue avec eux. On dit, mais vous rappelez, quand on vous a expliqué le règlement, vous êtes tombé sur tel article du règlement. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, parce qu'il y a des enfants qui sont des cervelés là, qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas. Eh bien, il faut le faire revenir à la raison par le dialogue, par la réprimande. Bon, quand vous n'avez pas respecté telle sanction, voilà ce qui vous attend comme sanction. Ça, c'est ce que j'appelle la sanction positive. Parmi ces sanctions positives-là, j'ai dit la retenue après la classe. Vous pouvez les retenir après la classe. Vous êtes obligé d'attendre ici. Vos amis rentrent. Pendant quelques minutes, ils vont se récréer. Vous restez en classe. Vous n'avez pas droit à la récréation. Vous le retenez même dans la scène de l'école. Il ne bénéficie pas de la récréation des autres. Parce que pendant la récréation, peut-être qu'ils ont eu le temps de pouvoir jouer un peu, un petit moment de football, tout ça. Lui, il n'a pas pris part à ça. Et ça fait mal à l'enfant. Mmh. Et ça l'amène à se... disons, à changer de comportement. Il y a également, on peut recourir au point. Je me souviens, quand j'étais gosse, il y avait une rubrique qui était réservée dans notre cahier, c'était la discipline. Tout côté, ce n'était pas A bien, meilleur, etc. Non, mettez les points.
Oui.
Sur 20, autant. Et l'enfant sait que, s'il ne reçoit pas de bons points, ça peut l'amener à pouvoir changer de comportement, pourquoi pas. Il ne faut pas croire que ce sont des éternels Satan et que c'est fini, et même s'ils sont sanctionnés, ils ne vont pas changer. Ce sont des personnes humaines. Ils doivent être sensibilisés, ils doivent suivre les conseils, etc. Et il y a espoir qu'ils puissent changer de comportement. Il y a également l'exclusion temporaire. J'ai parlé de l'exclusion temporaire ici.
Oui, oui.
Avant d'en arriver, ça dépend de ce qu'ils ont commis comme gaffe. Par exemple, un enfant qui se met à voler l'argent
de ses, ses amis.
Théophile Mumpalo, on a plus beaucoup de temps. Nous retenons que la punition ou les punitions corporelles ne sont plus acceptées, mais il y a plusieurs mille et une façons de corriger un élève indiscipliné au lieu de le fouetter.
Alors, je voudrais vous ajouter, il faut éviter le fouet.
Oui.
Ça, ce sont les sanctions interdites, qui sont les sanctions négatives. Éviter les fouets, oui. Éviter des coups et blessures, éviter l'usage d'argent, de se faire corrompre par les enfants, parce que cet enfant-là, peut-être qu'il est d'une famille aisée, alors il a commis une gaffe, vous dites, ah, il faudra m'apporter autant.
Il faut amener autant. Bien, merci. Merci Théophile Mumpalo, psycho-éducateur. À la prochaine.
Merci. À la prochaine.
Bandi mignon so balingi kokota lola, me basali ko bangaliwa. Passage obligé. Père Jean-Pierre Bochoko, Abbé Senghor. Père Alain Kabamba, Abbé Robert Pembele. Lula na lula ki e luteni na makambo Jean-Marie Amour yo na ni makite fosuke la nga bouye Na komi ko kanga mananda kono kula nyama nazo Kakapo na ko banga bato batu na baiba poni toka wani Na lembi be explication be interview ya ko pesa na bato Jean-Marie loupu la si E na ba jono joki bongi Michel la diluya Eko linga la linga eki eduke linga makambo ya dema Amuro yo anandima kite kosuke la ngagoye Na komiko kanga mananda koloko la nyama na zoe Kakapona kobanga bato batu na baiba ponini toka bwani Na lembi be explication be interview ya kope sana bato na bateleye E na ba jono donki Batunanga baiba ponini
Christian de Sakwelo, Top Congo
Zonga, zonga, Jean-Marie Lukulasi, on motema Zonga, zonga, Nami tunituni, nini ngana salio Lukulasi
Abdul Daya Shop
Nami leli, Nami tuni tuni yo motema Nami leli Nami tuni tuni Nini ngana sali yo Lukula si jamari
Konzo mwela la pointure au-dessus Rida Shenzinga
E la plonge ne bale Biso ya ko kanga ma pepe Tellement confiance de kakina beti moto na libanga
Makila masanga ninga ina soya monokwe
Na bele la kina leni moto tayo kaki kule la nanga Heureusement kolo ya we longo linga na dikulu
Alo binanga mwana tamola kaka na limengai Enjuru bukende nambo kamusika okokute sika Bolingwe kola na yo kaka ye Yale
Zonga, zonga, Jean-Marie Lukulasi, Pichu Lukulasi Zonga, zonga,
Rami Amisi, Bijou de Mpongo, Sam de Mombay, Mola
Naboya Kinanga, Lika Mwango, Yoloba Kinanga, Labangate Yoko emenga Jean-Marie, Napena Motema, Nalongola Kidute, Naloba Kipene, Senanwe Apesi yo monte manangai Yo moni siko yo nego Konyo salanga na pesi conscience Nanga rezo Yero bela jina yi Kena sala keba Kombo liwe bo makabwa maso Kila si yo monte ma Yo kono nzoto na susi Maya miso nanga na bomba kipo Na dila uyanga baboti Ule lisi nga hamo Na sengi yo pardon Ya kato sala mizo Pwensi mo kene na yo Uba sujamba
Fidèle fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service consacrée aux punitions à infliger aux élèves à l'école. Merci de nous avoir suivis. Paul Badenyam a été à la mise en onde, Tati Mapouko a assuré la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'était Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.
Chez un grand